Vous écoutez On lit pour vous.
Québec pense pourvoir tous les postes de psychologue l'an prochain, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 2 mai 2025 dans Le Devoir. Malgré un nombre plus important de départs que d'embauches de psychologues dans le réseau en 2024, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, maintient le cap sur son objectif. Il estime qu'il sera en mesure d'avoir pourvu tous les postes en psychologie en 2026-2027. Au cours de la dernière année, nous avons recruté 156 psychologues dans le réseau et nous avons eu 165 départs. Donc, on a un peu diminué, a affirmé M. Carman lors de l'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale. L'élu caquiste pense malgré tout qu'il sera en mesure d'arriver à un équilibre en 2026-2027. Les cohortes d'étudiants, incluant ceux qui ont pris le programme de psychothérapie, ont augmenté, a-t-il expliqué. En date du 5 avril 2025, 2040 psychologues étaient à l'emploi dans le réseau. Pour 2026-2027, le besoin projeté est de 2461 psychologues, a précisé par écrit le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le mercredi 30 avril 2025, le député péquiste Joël Arsenault a demandé au ministre quelle était la proportion de psychologues au Québec qui travaillaient actuellement au sein du réseau public. « On demeure autour du tiers. Ça n'a pas beaucoup changé », a rétorqué Lionel Carman. Une cible ambitieuse. L'objectif de pourvoir tous les postes de psychologues dans le réseau est ambitieux, soulève de son côté Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. On continue à perdre dans le réseau 40% des nouveaux psychologues au cours de leurs 5 premières années de pratique, souligne-t-elle. L'expertise de ces professionnels est souvent mal utilisée par les gestionnaires du système public, estime Mme Gauthier. Par exemple, il y a certains psychologues qui doivent animer des groupes d'éducation psychologique alors que ça pourrait être fait par d'autres intervenants. Dans certains milieux de travail, leur rôle n'est pas bien compris par leurs supérieurs. La solution pour retenir ces professionnels dans le réseau est de créer un syndicat qui leur est réservé, affirme la présidente de la coalition. À l'heure actuelle, les psychologues au public sont syndiqués avec une centaine d'autres corps de métier. Or, quand il arrive des problèmes aux psychologues, notamment sur le plan de l'autonomie professionnelle, ils n'ont pas le soutien nécessaire pour les représenter adéquatement et rapidement, déplore-t-elle. Elle s'inquiète aussi des postes de psychologues qui ont été supprimés en raison des compressions budgétaires dans le réseau. La majorité des psychologues souhaitent pourtant continuer à travailler dans le système public, dit Karine Gauthier. Ils s'en vont par dépit. Si les conditions étaient améliorées, c'est l'endroit où ils voudraient travailler. C'était « Québec pense pourvoir tous les postes de psychologue l'an prochain », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 2 mai 2025 dans Le Devoir.
« 31 stations du métro de Montréal sont en mauvais état. » Un texte d'Isabelle Porter, paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir. Le métro de Montréal est encore plus vétuste qu'on le croyait. Le gouvernement du Québec estime désormais que 31 stations tombent dans cette catégorie, soit près de la moitié du réseau. En 2024, 9 stations avaient reçu une cote de D ou E pour « mauvais état ». Dans le plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures du gouvernement du Québec, le PAGI. Or, en 2025, le document affuble désormais cette note à 31 des 68 stations du métro montréalais. Parmi celles-ci, 5 figurent dans la pire catégorie, soit E. Il s'agit des stations Peel, de l'Église, Champ de Mars, Fabre et Saint-Michel. Ces deux dernières avaient d'ailleurs dû être fermées d'urgence en octobre 2024 pour des raisons de sécurité. On invoquait alors une dégradation importante de certaines poutres principales au-dessus de la passerelle. Comment expliquer que le nombre de stations en mauvais état ait tant augmenté en une seule année? Cela résulte d'un changement de méthodologie et non d'une dégradation accélérée, dit la porte-parole de la Société de transport de Montréal, Amélie Régis. La STM affirme malgré tout que le métro reste sécuritaire. S'il y a un enjeu de sécurité pour nos clients, nous agissons rapidement, comme on l'a démontré avec la fermeture de la station Saint-Michel à l'automne 2024, a plaidé Mme Régis. Les équipements, pas les stations, dit la STM. Les cotes de D et E prennent en compte la désuétude de certains équipements et non l'ensemble de la station, précise la STM. Ce qui est critique pour la clientèle, ce sont les impacts sur le service. Des espaces fermés, des escaliers mécaniques fermés, des interruptions de service, etc. En plus des stations, les tunnels et autres structures du métro sont en piteux état. Ainsi, 38% des tunnels sont jugés en mauvais état dans le plus récent bilan, soit environ 27 km sur les 71 que compte le réseau. Le portrait n'est guère plus reluisant du côté des structures auxiliaires, comme les postes de ventilation mécanique qui extraient l'air chaud du métro entre les stations, et les postes de redressement qui alimentent les voies en électricité. Près du tiers d'entre elles sont en mauvais état. Le quart obtient même la pire cote de vétusté, E. Le métro de Montréal aura 60 ans en 2026. L'âge moyen de ses infrastructures est de 48 ans et les niveaux d'investissement sont largement insuffisants pour compenser le vieillissement des actifs, ajoute-t-elle. La STM prévient d'ailleurs que de nouvelles fermetures sont à prévoir si nous n'investissons pas massivement dans le maintien des actifs. Les autres stations en mauvais état, Côte D, Angrignon, La Salle, Place des Arts, Papineau, Frontenac, Cadillac, Côte-Vertu, Plamondon, Côte-Sainte-Catherine, Snowdon, Villa-Maria, Lucien Lallier, Square Victoria OACI, Place d'Armes, Sherbrooke, Jean Talon, Sauvé, Henri Bourassa, Jean Drapeau, Longueuil Université de Sherbrooke, Côte des Neiges, Université de Montréal, Édouard Montpetit, Acadie, Parc d'Iberville. Interpellée à ce sujet au Parlement, la ministre des Transports Geneviève Guilbeault n'a pas voulu dire exactement ce qu'elle comptait faire dans le dossier. « On n'a jamais mis autant d'argent, notamment dans l'Est de Montréal », a-t-elle réagi, en soulignant entre autres le prolongement du SRB P9 et de la ligne bleue du métro. « Il existe d'autres projets importants à financer en dehors de Montréal », a-t-elle aussi lancé en réponse au député de Québec solidaire qui avait posé la question, Étienne Grandmont. Visiblement agacée, la ministre a qualifié les dirigeants de la STM d'amis du député solidaire. Lors de l'étude de crédit, elle a aussi souligné que la société de transport héritait déjà de la part du Lion 70 % des budgets d'entretien des infrastructures en transport collectif au Québec. Les choix sont difficiles, a-t-elle aussi mentionné. Le plan québécois des infrastructures prévoit des investissements totaux de 7,94 milliards de dollars sur 10 ans dans la STM. Or, cette dernière réclamait dans le budget une enveloppe supplémentaire de 585 millions sur 3 ans pour l'entretien du métro. C'était 31 stations du métro de Montréal sont en mauvais état. Un texte d'Isabelle Porter paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir.
Un cours sur rien pour apprendre l'essentiel. Un texte d'Ève-Marie Kiffer paru le 22 mai 2025 dans La Presse. Professeure de carrière, l'autrice propose d'aller plus loin que de simplement interdire le cellulaire en classe. Le gouvernement veut imposer le vouvoiement dans les écoles, interdire les cellulaires. Ça fait réagir. Certains trouvent que c'est dépassé, que ça ne changera rien. Peut-être. Mais si on veut vraiment que l'école évolue, pourquoi ne pas viser plus profond? Pourquoi ne pas donner aux élèves et aux enseignants un moment dans la journée où être suffit? Dans certains pays, il existe un cours de savoir-être. On y apprend à se respecter, à coopérer, à vivre ensemble. C'est bien. Mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Ce qu'on n'enseigne pas, c'est à ne rien faire. À être là, présent, sans stimulation, sans réponse, sans satisfaction immédiate. Aujourd'hui, on remplit tout. Le cerveau, l'agenda, même les pauses deviennent des moments à optimiser. On a oublié comment attendre. Comment s'ennuyer? Comment simplement ne rien faire? Les enfants n'ont pas de patience. Et si on faisait une place à ça, à l'école? Un cours de vide. Pas de lecture, pas d'écoute de musique, pas de discussion, pas d'activité. Pas même le droit d'aller aux toilettes ou de se lever parce qu'on a oublié quelque chose. Juste être là. Ensemble, en silence et au présent. Ce serait probablement le cours le plus difficile, surtout parce que ce serait frustrant. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre à traverser, la frustration. Certes, les enfants vivent beaucoup de frustration à l'école, mais le fait que tous les vivent en un instant commun viendrait apaiser leur solitude. L'inconfort de ne rien faire est universel. Pourquoi n'y a-t-il plus de couple qui dure? Pourquoi est-ce que les choses doivent toujours changer? Parce que nous n'avons pas appris la patience et la tolérance. Le vrai problème à l'école, c'est que si tu aimes la matière, tu as de bonnes notes, et si tu ne l'aimes pas, tu ne l'apprends pas et tu vis des difficultés. Diagnostiqué ou non, le trouble reste le même. On a du mal à s'adapter à la différence. Les rythmes, les façons d'apprendre, même le ton d'une voix. On veut tout régler, tout satisfaire, mais on oublie que ce sont nos différences qui font notre richesse. Se faire aimer ou aimer. Quand j'étais une jeune enseignante, je voulais être la prof qui fait aimer et qui se fait aimer. Je croyais que c'était ma meilleure chance d'amener le plus d'élèves possible à la réussite. Aujourd'hui, après plus de 20 ans, je mise sur autre chose. J'aime mes élèves. C'est parce que je les aime que je hausse le ton, que j'exige le silence et l'écoute avec fermeté. Et je me réjouis quand ils me roulent les yeux ou expriment leur mécontentement. Les enfants sont capables de tellement de choses. Donnez-leur un cours de rien et ils performeront mieux que les adultes. Les enfants ont toutes les possibilités et leur attitude est simplement leur façon de nous dire qu'ils savent qu'on les sous-estime. C'est à la dure que tous les enseignants de carrière qui ont tenu bon et n'ont pas quitté la profession après 3 à 5 ans ont acquis la patience et la tolérance nécessaires à cette profession. Ce serait si simple d'équiper nos enfants de ces outils essentiels. je n'y vois pas de contradiction. J'y vois vraiment la pièce clé du casse-tête de l'éducation. Comme disait Paul Pichet, les enfants, c'est pas vraiment méchant. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. C'était Un cours sur rien pour apprendre l'essentiel, un texte de Marie-Ève Kiffer, paru le 22 mai 2025 dans La Presse.
Des Québécois mettent leur projet immobilier sur la glace. Un texte de Clémence Pavic, paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. Malgré la menace d'une récession, le marché immobilier demeure vigoureux au Québec. Toutefois, plusieurs acheteurs potentiels songent à mettre leur projet sur pause à cause de l'incertitude économique. Placements qui fondent, perte d'emploi, plan de retraite à revoir. Les raisons peuvent être variées. Portrait. Merci à M. Trump de gâcher le début de notre retraite, lance au Devoir Louise Morneau, une enseignante retraitée de Repentigny. Son conjoint, éclairagiste dans le milieu du cinéma, aura lui aussi bientôt fini de travailler. Mais depuis l'entrée en poste du président américain et l'instabilité économique suscitée par ses tarifs douaniers tous azimuts, le couple a dû revoir ses plans pour ses beaux jours. Jusqu'à récemment encore, elle et son conjoint avaient plusieurs projets. Changer leur voiture qui commence à être usée, visiter l'Europe pour une première fois et aussi déménager à Québec. Mais tout ça est un peu sur la glace. On est dans l'incertitude, soulève Mme Morneau. On vient tous les deux de Québec. Ça fait une quarantaine d'années qu'on habite dans la région de Montréal et on voudrait maintenant se rapprocher de nos parents qui vieillissent et être plus près de la nature, explique la retraitée. Mais dans le contexte économique actuel, le couple craint de s'engager dans un projet coûteux. On regarde les différentes options, mais il y a peu de maisons à vendre et elles sont chères, dit Louise Morneau. Charles Brandt, directeur du service de l'analyse du marché de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, APCIQ, opine. Le marché immobilier au Québec reste dynamique, particulièrement dans la région de la capitale nationale. À l'échelle de la province, au mois d'avril 2025, le nombre de ventes de maisons unifamiliales était en hausse de 10 %, le nombre d'inscriptions en baisse de 1 % et le prix de vente médian en hausse de 11 % sur une base annuelle, selon les plus récentes données de l'APCIQ. À Québec, sur la même période et pour la même catégorie de biens, les ventes étaient en hausse de 13 %, les inscriptions en chute de 14 % et les prix en hausse de 18 %. Pour Mme Morneau et son conjoint, pas question de se précipiter et de prendre des risques financiers. « Mon conjoint est frileux. Il est inquiet parce que lui, il n'a pas de fonds de pension », souligne-t-elle. Beaucoup d'hésitation. Si le marché immobilier résiste, c'est parce qu'il est encore largement en situation de déséquilibre sur le plan de l'offre et de la demande, selon Robert Hogg, économiste de la Banque royale du Canada, spécialiste de ce secteur. D'autres marchés dans le reste du Canada, notamment la région de Toronto, sont beaucoup plus affectés, car les prix y sont plus élevés, analyse l'expert. En comparaison, acheter une maison au Québec est plus abordable, dit-il. Mais il y a beaucoup d'hésitations, évidemment, avec toute l'incertitude qu'il y a présentement par rapport à la guerre commerciale. Ça amène beaucoup de gens à être très prudents. Certains se demandent s'ils vont perdre leur emploi, souligne M. Hogg. Félix Veillette et sa conjointe, parents d'une petite fille de presque 2 ans, se demandent justement s'ils iront de l'avant ou non avec leur projet d'acheter une première propriété. La jeune famille est actuellement locataire d'un appartement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, mais rêve d'un peu plus grand. Or, récemment, les sommes prévues pour leur mise de fonds investis dans des actions à la bourse ont fondu. Depuis l'instauration du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CILIAP, les conjoints y ont tous les deux cotiser à hauteur de 8 000 $ par année, soit le maximum permis. En tout, on a investi 24 000 $ chacun depuis 3 ans. À cause du yo-yo du marché boursier, les placements du couple ont perdu près de 20% de leur valeur, évalue M. Veillette. Même si leurs investissements ont repris du mieux ces dernières semaines, ils n'ont pas retrouvé leur valeur de la fin 2024. On pensait être capable d'acheter une maison unifamiliale ou un duplex au début de 2026, mais on va probablement devoir retarder nos plans, regrette le jeune père qui termine une maîtrise en génie. Félix Veillette est d'autant plus prudent financièrement que sa conjointe a récemment perdu son emploi dans le secteur des effets visuels. Si elle demeurait optimiste de pouvoir retrouver bientôt un emploi dans son domaine, ses espoirs se sont effondrés après l'annonce du président Trump d'imposer des droits de douane sur l'industrie du cinéma il y a quelques jours. On a quand même bon espoir de pouvoir devenir propriétaire un jour. Je sais que nos placements vont finir par remonter et notre situation se stabiliser, mais en ce moment, on doit faire attention, dit M. Veillette. C'était « Des Québécois mettent leur projet immobilier sur la glace », un texte de Clémence Pavic paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
Être frigane et vivre des rejets de la société de consommation, un texte de Simon Paré-Poupard, paru le 6 mai 2025, dans Le Devoir. Comment bien remplir le cab du troc en ramassant pendant une run lorsqu'on est vidangeur? Mouvement récent s'il en est, le friganisme a de plus en plus d'adeptes en Occident. Sa paternité reviendrait à Warren Oakes, batteur du groupe punk Against Me. Il en pose les bases dans un manifeste dont on tire les principes éthiques suivants: anti-consumérisme, anti-capitalisme, lutte contre les privilèges. Pour moi, c'est cela, mais aussi autre chose. Plutôt que d'attendre la révolution qui ne viendra pas, transi par le cynisme de l'inaction et pris dans un capitalisme qui le dépasse, l'individu moderne devient frigane en disant « stop ». Quoi de mieux que d'être dans un système politico-économique basé sur l'argent en profitant sans utiliser le moyen prescrit pour le faire croître? Puisque ces dernières années, la croissance a été maintenue par la consommation et que l'endettement des ménages ne cesse de croître. Arrêter cette dynamique pour soi, c'est la possibilité de prendre conscience de notre dépendance envers les objets qui nous entourent, de la complexité des techniques et de la logistique ayant permis leurs acheminements jusqu'à notre domicile ou le magasin le plus proche. C'est respecter les matières, les composants, le travail et l'énergie mis dans leur production. Dès lors, comprendre et assumer les très probables piètres conditions des travailleurs les ayant produits, ainsi que les ressources limitées qui sont enchevêtrées en eux. Aussi, prendre conscience que ces biens sont réservés à certains plus qu'à d'autres. Enfin et surtout, réaliser le revers de tout cela. Pour qu'il y ait autant de biens en circulation, il a fallu disposer des excédents, le surplus, parce que les élus de l'époque ne voulaient pas avoir la charge sociale dont est imprégné le déchet. Le Québec a mis en place depuis les années 1960-1970 tout un système technique privé hyper efficace pour gérer nos déchets. On nommera ce système la gestion des matières résiduelles, GMR. Ce sont les sites d'enfouissement technique, comme on les appelle, les dumps, les sites de transbordement, les incinérateurs, les écocentres, les dépôts sauvages, les déchets dans l'océan et maintenant ceux dans l'espace. Une fois cela mis en tête, difficile d'acheter en bonne conscience. Trop plein. Être frigane, c'est surtout dire, par le glanage de tout et le refus d'acheter, que notre société en a déjà produit assez, de tous ces objets, pour que nous n'ayons plus collectivement à en produire davantage. Il faut en prendre soin et se les partager. À contrario de l'éco-citoyen sorti tout droit des bancs universitaires, le frigan, qui a pour ancêtre les guenillous et quêteux au Québec, ne se contente pas de savoir bien jeter. En se réappropriant le déchet, il choisit quoi faire et que faire avec, ne laissant pas à l'industrie de la GMR lui dicter le geste responsable, la bonne pratique. Comment appliquer une grille d'analyse frigane à Noël, au Québec? Une approche pragmatique à la problématique de la collecte des sapins? En tant que vidangeur, je ramasse dans les ordures environ 12 arbres en plastique par année. J'arrondis bien sûr, à raison de 3 jours sur 5 par semaine. Je simplifie maintenant. Disons 20 arbres par année si je travaillais à temps plein. Un arbre jeté toutes les 2 semaines et demie. Je couvre un secteur par jour, en moyenne. J'extrapole et simplifie encore. Dans la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, il doit sortir 150 camions pour collecter les ordures par jour pour 150 secteurs. Tous les 12 secteurs, il se jette un arbre en plastique. Il se jette très probablement 13 arbres artificiels par jour dans la CMM. Ainsi, avant de couper un nouvel arbre ou d'acheter un des nombreux qui se trouvent en magasin chaque année, nous pourrions nous partager et réparer ceux déjà en circulation. Prendre en charge l'excédent, nous réapproprier ce que nous avons qualifié avec le temps de déchets et lui rendre la dignité qu'il devrait avoir. La prochaine fois que vous serez dans un centre commercial, regardez alentour de vous et dites-vous que la plupart de ce que vous y voyez se retrouvera dans moins de 10 ans au rebut. Il faut arrêter cette folie. C'était « Être frigane et vivre des rejets de la société de consommation », un texte de Simon Paré-Poupard, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir.